Et si on partait sur Europe 1, tous les jours entre 16h et 18h, un grand voyage, deux destinations, une en France entre 16 et 17, une au bout du monde entre 17 et 18, juste pour le plaisir de rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
À 17h, nous allons donc partir pour ce qui est à mes yeux le plus lointain des voyages. C'est une des terres les plus reculées de la planète. Je vous le disais tout à l'heure, certaines ethnies ont eu un premier contact avec l'homme blanc dans les années 70-80. C'est tout récent. C'est une terre sauvage au relief extrêmement difficile, couvert de jungle. C'est aussi grand que l'Espagne, mais très très peu de routes. Je vous emmène en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis, juste auparavant, nous allons découvrir une région un petit peu moins sauvage, plus accessible, mais magnifique, en France, les Pyrénées-Orientales. Nous irons sur le Mont Canigou, nous irons à Collioure, à Canet-en-Roussillon, à Argelès. Bon, je peux vous en citer beaucoup comme ça, des stations balnéaires adorables. Et puis, c'est le pays aussi du petit train jaune qui grimpe dans la montagne. Tout cela donc maintenant, avec tous mes amis voyageurs et bien sûr Nathalie Elal. Bonjour.
Bonjour à tous.
Nathalie, grande voyageuse, auteure. Olivier Pouls, chroniqueur gastronomique célébrissime.
Bonjour. Bah écoutez, je suis à la fête aujourd'hui. Tout d'abord, en tout cas, pour la première heure, pour la deuxième, on verra que c'est un peu plus compliqué.
Ah oui, la gastronomie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je suis impatient de vous entendre.
Vous faites un beau cadeau, là.
Et puis Jean-Bernard Carrier, bonjour.
Fidèle au poste.
Jean-Bernard du guide Lonely Planète. Alors, là pour l'instant, on est dans les Pyrénées-Orientales.
Le 66.
Le 6-6.
Voilà, j'espère que ça porte bonheur, hein, ce chiffre.
Bah,
ça,
on peut y voir le chiffre du diable.
Oui, certains, justement, on peut se méfier
voilà.
Un peu.
N'avançons pas trop.
Donc ça se trouve tout au sud de la France, ouais. Aux portes de l'Espagne, donc aux confins de la France et de l'Espagne. Région qui cumule vraiment beaucoup d'avantages. Il y a à la fois une très belle façade littorale, ouais. Côté Méditerranée, avec de très très beaux villages et des superbes plages, on en parlera, et aussi un arrière-pays montagneux. Alors, ce n'est pas la très haute montagne, parce que ça ne dépasse pas les 2900 mètres d'altitude maximum, c'est déjà pas mal. Et des très belles vallées, comme la vallée du Tête et la vallée du Têche. Donc, il y a les Pyrénées, c'est un mélange de montagne et de mer, les Pyrénées-Orientales. C'est ça qui fait tout le charme de ce département.
Ce sont ces régions divines, bénies des dieux, qui allient bénies tout à la fois. C'est super. Nathalie,
oui.
les célébrités de cette région.
Alors, cette région, c'est une terre fertile, vraiment, hein, pour les artistes. Alors qu'ils y soient nés ou qu'ils s'inspirent de ses couleurs. Je vais commencer par Dali. Alors, il n'y est pas né, hein. C'est un peintre évidemment d'origine espagnole, mais il avait une relation tout à fait particulière, vous allez voir, avec la gare de Perpignan, parce qu'il disait d'elle qu'elle était le centre du monde,
ouais,
qu'il y avait eu les plus grandes inspirations de sa vie. Et il a même ajouté que l'arrivée à la gare de Perpignan était pour lui l'occasion d'une véritable éjaculation mentale. C'était Dali, hein, évidemment.
En tout cas, je suis déjà allé à Perpignan en train.
Vous n'avez pas eu cette sensation ?
J'ai pas de souvenir précis.
Mais quel dommage. En tout cas, Dali, lui, il a immortalisé, par reconnaissance sans doute, cette jolie gare en lui consacrant une toile en 1965. Je continue sur nos peintres, Henri Matisse, André Derain, qui eux aussi ont été conquis, alors cette fois par les lumières de Collioure, où ils se sont installés en 1905. On dit que Collioure est la cité des peintres et le berceau du fauvisme. En tout cas, Picasso, Raoul Dufy et puis Marc Chagall y sont aussi venus poser à plusieurs reprises leur chevalet. Et puis dans un tout autre registre, un grand parolier qui a œuvré pour Édith Piaf et pour Gilbert Bécaud, Louis Amade. Il est né en 1915 à Isle-sur-Tête. On lui doit notamment ceci.
L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important.
Je me souviendrai toujours de Thierry Leluron en train de déformer joliment cette chanson chez Michel Drucker. Enfin, pour terminer, un humoriste et comédien, Mathieu Madénian, originaire de Perpignan, où il est né en juillet 1976.
D'accord, très bien. Olivier Pouls, alors les Pyrénées-Orientales, il y a des spécialités ?
Oh ben, y en a beaucoup, ouais. C'est encore un pays de cocagne, hein, vous savez, entre terre et mer, des anchois de Collioure dont on parlera tout à l'heure, aux pêches du Roussillon par exemple, de l'artichaut du Roussillon, aussi grande spécialité. spécialité, indication géographique protégée, au délicieux jambon, et puis des vins plutôt puissants et charnus comme le Banyuls, vin de dessert au secret bien gardé.
Ouais, j'aime pas trop les vins de dessert. Moi.
Je vais essayer de vous convaincre quand même.
Je suis pas fan.
Restez avec nous jusqu'à la fin.
Ça se voit sur votre visage. On les boira pour deux, vous inquiétez pas.
Dans un instant, notre grand voyage donc des Pyrénées orientales jusqu'à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous serons en ligne dans quelques minutes avec un pur pyrénéen, fou amoureux de sa région, le chanteur et écrivain Cali. A tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
2 heures de voyage tous les jours sur Europe 1, juste pour le plaisir de s'évader, de tout oublier. Après 17h, donc direction la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là, tout de suite, les Pyrénées-Orientales, la Catalogne française, avec donc ce célèbre mont Canigou, qui domine la région quand même de 2785 mètres, ce qui n'est pas rien le Canigou, et qui tire son nom d'ailleurs de la forme Canigo, c'est du catalan, je ne sais pas si je le prononce bien, et ça signifierait « dent de chien ».
Il ressemble à une dent de chien,
ouais,
effectivement.
Tout à fait. De là, est-ce qu'il y a un lien avec la pâtée pour chien ? Je ne sais pas. On nous pose la question, mais je ne crois pas.
Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la transmettre.
N'hésitez pas. Alors, pour nous guider sur ces terres sublimes, un catalan dans l'âme, dans le cœur et dans le sang, Cali, qui est très attaché à ses racines et à sa terre et qui vit toujours là-bas, près de Perpignan. Bonjour Cali.
Bonjour, si, le diable, ça va bien?
Le diable? Pourquoi le diable?
Non, parce que je vous écoutais parler du diable 6-6 tout à l'heure,
ah
ça
oui.
m'a fait beaucoup rire.
Ouais. Ouais,
mais il manque un 6, c'est 666.
Il manque un 6. Et si je peux me permettre, dans les célébrités, vous avez oublié notre chanteuse fétiche, c'est Dani.
Ah
Dani,
oui.
la perpignanaise.
Bien
bah,
sûr,
oui.
bien sûr.
C'est elle l'icône
mais
hein, de Perpignan.
La liste est longue, il faudrait beaucoup ouais. de temps pour tout dire.
C'est clair.
Alors, vous êtes Cali, catalan de grands-parents espagnols et italiens, né à Perpignan, et vous êtes encore... Il y a du vent, je ne sais pas si vous êtes dans une vallée très ventée, qu'est-ce qui se passe?
Il est au sommet du Canigou.
Ouais, ça vous dérange? Vous voulez que je bouge un petit peu ou ça va là?
Oui, si vous pouviez bouger un petit peu, vous mettre à l'abri en tout cas.
Alors, je vais essayer de me mettre à l'abri.
Voilà.
Essayer,
hein. Pendant ce temps-là, je raconte un peu votre histoire. Donc, vous êtes très attaché, je crois, à votre village d'enfance qui s'appelle Vernay-les-Bains, qui est une station thermale magnifique, dans laquelle vous avez vécu jusqu'à vos 25 ans. C'est vraiment très joli ce village, c'est vraiment chouette.
Bah, moi, je vais pas vous dire le contraire. En fait, au début du siècle, c'était considéré comme le paradis des Pyrénées. Et c'est un microclimat où les gens venaient se soigner, ne serait-ce qu'en respirant l'air de ce village-là.
Ouais.
Et c'est un village où des hôtels ont été construits, casinos merveilleux. Et les rois, les reines du monde entier sont venus là-bas. Et au-delà de ça, il y a des écrivains. Malraux a écrit L'Espoir là-bas.
Ouais.
Des grands sont venus. C'était considéré comme le Saint-Tropez aujourd'hui. Et puis en 1940, des inondations en catalan l'Aiguat ont dévasté le village, la partie basse du village. Et voilà, c'est passé à autre chose après. Mais ça reste un village sublimement beau, quoi.
Mais ça
c'est clair.
Ressemble moi, à quoi?
Alors c'est au pied du c'est au pied du Canigou, c'est-à-dire que dès là on peut démarrer la grimpette quoi.
Ouais.
Et c'est enclavé, ce qui veut dire que en fait on a toujours du beau temps en fait, toujours. Et quand il y a du vent, la tramontane qui dérange et qui rend fou les gens de la plaine, nous on n'a pas ce vent là. Donc il y a tous les avantages en fait dans ce village.
Ouais.
Il y a une petite rivière qui s'appelle le Cadi qui coule en bas, il y a le Saint-Vincent qui coule en haut. Et le village, un vieux village au milieu, qui est absolument merveilleux. Moi, j'ai grandi là, j'ai fait toutes mes bêtises là, j'ai fait l'amour la première fois là, et puis je regrette pas quoi.
Ouais.
Ouais, ouais.
À quel endroit
ouais,
précisément?
Alors c'était en descendant là.
Il y a une stèle commémorative.
Non mais vous rigolez, mais on a la grotte des amoureux en ouais. fait, où qui j'ai écrit une chanson là-dessus. La grotte des amoureux, c'est un lieu où depuis des siècles, des gens montaient là-haut et montent toujours là-haut avec leur amante ou avec leur chérie et vont s'embrasser dans cette grotte-là. Et c'est resté merveilleux parce qu'elle est difficilement trouvable. Et il y a des gens qui montent à Vernay pour la trouver, qui la trouvent pas. Et quand on la trouve, c'est Brigadoun, quoi.
Et un jour, j'étais...
C'est passé juste à côté. J'ai pas eu le courage de monter jusqu'à la grotte en fait. Mais en fait, le truc c'est qu'il y a pas si longtemps, j'étais assis, je méditais, je pensais à mon enfance dans cette grotte là. Et puis un promeneur qui arrivait du nord des Hauts-de-France et qui arrivait avec des bâtons de marcheur et qui me voit et qui dit mais moi je viens de là-haut et j'adore cette chanson La Grotte des Amoureux et je vous trouve ici quoi. Et il croyait que j'étais payé par la mairie pour rester ici.
on a un petit extrait de la chanson, on écoute.
Ah,
parfois,
d'accord.
On se picorait la bouche comme des oiseaux éperdus. On riait, on se pissait dessus. On était si vivants que nos corps explosaient. On était si heureux à la grotte des amoureux. On était si heureux à la grotte des amoureux.
Ah oui, dis donc, ça a l'air pas mal. Il se passe beaucoup de choses.
Ouais, ouais, vraiment. Mais Charles Trenet a traîné là-bas d'ailleurs avec Johnny S quand il faisait le duo avant sa grande carrière et jouait au casino de Vernet-les-Bains. Et une nuit, il s'est promené tout nu dans le parc Stompunk avant l'heure, quoi, avec Johnny S. Et le garde champêtre les a arrêtés. Il se trouve que c'était un de mes arrière-grands-pères. Et leur a dressé un procès-verbal, mais eux s'en fichaient totalement. Et quelques années après, quand Charles Trenet a voulu partir, alors j'en ai parlé avec ses biographes qui m'ont confirmé l'histoire, a voulu partir aux États-Unis pour sa carrière, il a été refusé à l'entrée parce qu'il avait ce procès-verbal.
Ah oui ?
Voilà. Mais par contre, j'ai appris que c'est cette période où il a dû rentrer en France, où il a écrit ses plus gros succès. Donc je me dis que c'est grâce à moi, quoi. Voilà.
Dans votre famille, en tout cas.
Ouais, c'est clair.
Et alors, le Canigou est tout proche, c'est un mont qui est extrêmement célèbre. Pourquoi tout le monde connaît ne serait-ce que le nom Canigou ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ?
Ben, c'est une montagne qui est pour nous sacrée, comme un dieu. Dès que les enfants peuvent marcher, on leur fait gravir le mont Canigou. Il y a deux façades pour la gravir. On peut monter en jeep ou en 4x4 jusqu'au chalet des Cortalets d'un côté. Et puis il y a 2 heures de marche après qui sont jouables, faisables. Et de l'autre côté, on monte au col de Mariaille, on continue. Et après, il y a carrément une cheminée où c'est vraiment de l'escalade pour grimper là-haut. Et là, on monte à 7-8 heures. Mais il faut savoir qu'il y a une course du Canigou chaque mois d'août, au début du mois d'août, où les premiers font le tour, c'est-à-dire montent de Vernet-les-Bains jusqu'au Canigou en redescendant de l'autre côté, en courant, et mettent moins de 3 heures. Quoi. Donc c'est phénoménal. Et là où il y a une croix, et on domine tout, et on voit l'Espagne. On a l'Espagne de l'autre côté. Et par beau temps, on arrive à voir Marseille de tout là-haut.
Et le Mont Blanc, non ? Souvent, on voit
Mont
Blanc.
Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Alors, on parle de mirage, mais on peut voir Marseille, oui. Et ce qui est très particulier, c'est qu'il y a souvent, alors moi, je l'ai fait, j'adore ça. Je vous écoutais parler, et c'est tout à fait ça. Je suis complètement d'accord. La particularité chez nous, c'est d'avoir la Méditerranée là et la montagne juste à côté. Ce qui est particulier, c'est qu'on peut aller faire l'apéro à midi au pic du Canigou, à 2785 mètres, et le soir, aller sur la plage à Collioure et faire l'apéro encore. Quoi.
Et ça, c'est génial.
Merveilleux.
Ça, c'est génial. Kelly, vous restez avec nous, on va continuer à explorer cette superbe région. On va écouter un extrait de votre dernier album, l'album qui s'intitule Cavale, et on va écouter Je dois encore vivre. À tout de suite.
À tout de suite.
Et si on partait tout l'été ? Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1.
Une cuisine qui vous ressemble, c'est possible. Ixina s'engage à dire oui à tous vos rêves de cuisine. Pour trouver l'inspiration et profiter de conseils sur mesure, rendez-vous dès maintenant dans l'un des 150 magasins Ixina ou sur ixina.fr. Ixina, élue meilleure chaîne de magasins pour la 2e année consécutive.
Carrefour. Chez Carrefour, être partenaire de votre budget, c'est vous proposer chaque semaine de bons fruits et légumes de saison à prix imbattable. Par exemple, jusqu'à ce soir, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, les poires Guyot filière qualité Carrefour Origine France sont au prix imbattable de 1,49€ le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Et oui, c'est ça un prix imbattable. Carrefour.
Catégorie 1, calibre 65-70, modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr.
I'm in. Dans l'instant, sifflez. Montez sur le ring. Commencez le match. In. Avant le match, en live. À chaque partie. Gagner, perdre ou l'avare. I'm in. Le plus grand nom du poker, maintenant dans les paris sportifs. Téléchargez et jouez à Poker Stars. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
16h-18h,
Et si on partait ?
Philippe Googler
sur Europe 1.
2 heures de voyage tous les après-midi sur Europe 1. Tout à l'heure, après le flash de 17h, nous irons dans un pays incroyable. C'est presque le plus grand des voyages qu'on puisse faire. Nous irons dans la patrie des Papous en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là, tout de suite, nous sommes dans les Pyrénées-Orientales. Une très, très belle région française. La région du mythique Train Jaune, d'ailleurs.
La patrie des Calis.
La patrie des Calis et de Calis. Il y a plusieurs Calis.
Il y a qualité premium.
Ouais, il y a Kali Minogue aussi.
Ah bah les gens, c'est bien, vous avez fait une belle brochette là. Encore d'autres propositions autour de Kali.
Calimero.
Calimero,
ah,
très
Calimero.
Bien. Bon, ils sont très en forme, Kali, excusez-moi.
Ouais, c'est parfait, c'est parfait.
Je suis désolé, j'ai un peu honte, mais bon voilà, c'est comme ça.
Non. Ne vous inquiétez pas.
Kali, vous êtes catalan, puisqu'on dit que c'est la Catalogne française, cette région. Qu'est-ce que ça veut dire être catalan?
Oh, alors en fait, ce qui est particulier, c'est que on est vraiment à la frontière de quelque chose, quoi, de la frontière d'une histoire incroyable, bah l'histoire du franquisme qui était juste derrière la frontière.
Ouais.
Et aujourd'hui, quand on voit nos cousins qui se déchirent, ça nous concerne évidemment, même si les médias mondiaux, on va dire la caisse de résonance des médias a pris part à ce conflit qui est particulier. Il faut les laisser décider eux-mêmes, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que le franquisme est toujours là. Il y a quand même une empreinte. Moi, je viens de là. J'ai un grand-père Giuseppe Caliciuri qui est né à San Stefano en Calabre, en Italie, et qui a toujours refusé que des pays soient sous le joug d'un fasciste. Donc lui, c'était Mussolini. Il est allé se battre. Il est allé défendre Sacco e Vanzetti aux États-Unis. Il est allé manifester. Il a fait plein de choses comme ça.
Ah oui.
Et les brigades internationales l'ont emmené à Madrid, sur le front de Brunet. Il y a un film « Mourir à Madrid » qui est sublime, qu'il faut le voir à tout prix, de Frédéric Grossif. Il a été blessé sur le front de Brunet et c'est une charmante doctoresse qui l'a soigné, c'est ma grand-mère. Ils sont partis à Barcelone sous les bombes. Mon papa est né sous les bombes là-bas. Ils se sont enfuis comme ces milliers de républicains espagnols vers la terre d'accueil, entre guillemets, la France. Et les camps de souffrance, quoi, les plages où vont les touristes aujourd'hui, Saint-Cyprien, Argelès. Il y a le camp de Rivesaltes qu'il faut absolument aller visiter, le mémorial, parce que aujourd'hui, il y a des kilomètres carrés de baraquements qui sont encore debout, délabrés, mais qui racontent une histoire. Il faut montrer ça à nos enfants. Parce
et c'est,
que
là,
c'est, vraiment...
c'est là qu'ont vécu les réfugiés pendant des années.
Des années. C'est-à-dire que c'est un camp qui a été ouvert de 1925 à 1970. Et un camp qui a accueilli les juifs, les harkis, les tziganes, les républicains espagnols. Et c'est troublant parce qu'aujourd'hui il y a Rudy Ricciotti, l'architecte, qui a construit un mémorial fantastique sous terre. Et il y a des archives complètement incroyables. Mais quand on consulte ces archives, on se dit qu'on est juste en dessous de tout ça, de tout ce qui s'est passé. Faut savoir qu'il y a des trains qui partaient de là-bas, des trains frettés par la SNCF. Hein, c'est l'histoire comme ça qui emportait les Juifs à Drancy. Donc c'était une histoire comme ça. Donc la Catalogne a cette empreinte là de guerre et de combat et de résistance. Et donc musicalement, il s'est passé des choses parce qu'on a les sardanes catalanes avec des cobles catalanes, les musiciens catalans qui jouent des airs qui sont dansés par toutes les générations. Mais ces airs là sont des airs de résistance vraiment au franquisme. J'ai eu la chance d'avoir un arrière-grand-père, Genovese, Alexandre Genovese, qui était le photographe personnel du plus grand violoncelliste du monde, Pablo Casals. Et on a retrouvé des archives et lui-même était venu se réfugier à Prades, chez nous. Et tout ça est complètement imprimé dans notre terre, dans notre sang, dans notre dans notre vin, dans nos écrits. Et c'est vraiment ça continue aujourd'hui. C'est assez troublant si vous regardez les matchs de rugby aujourd'hui. On a été champion de France avec Perpignan à l'USAP en 2009. Et le bouclier de Brennus est arrivé. D'habitude, les boucliers de Brennus se promènent dans les villes victorieuses et sont juste affichés dans les clubhouses des clubs, quoi. Et nous, le bouclier s'est promené de village en village. Tous les villages du département ont accueilli le bouclier, posé sur un siège à nosier, une chaise à nosier. Et il y avait des petits vieux qui venaient pleurer et se prosterner devant. C'était merveilleux. Et c'est ça la Catalogne, c'est-à-dire que ça vit au rythme d'une histoire. Quoi.
Et il y a toujours cette fierté d'être catalan.
Ouais, c'est souvent trop fier parce qu'on est très très chauvin. Mais par contre, parce qu'on se dit que notre terre, elle est... Non, on a la chance d'avoir... ce beau temps toute l'année, on a la chance d'avoir ce relief qui est fou. Ouais. Mais au-delà de ça, moi je suis. Il y en a qui veulent qui veulent protéger tout ça. Moi, je me dis, il faut ouvrir aux gens, quoi, complètement. Ouais. Il faut venir chez nous. Ouais.
Alors, on m'a dit que vous appréciez tout particulièrement le muscat de Rivesaltes, que vous avez une façon particulièrement de le boire.
Ouais, alors il y a des vins. Hein. Alors d'abord, avant de vous parler du muscat, pour vous dire qu'il y a des, il y a quand même, il y a un acteur qui s'appelle François-Xavier de Maison qui est venu se marier chez nous à Thuir,
qui fait du vin par là-bas,
et qui fait du vin et qui a fait un vin qui est merveilleux, le Mirmanda. Et le premier millésime en 2018 est un chef-d'œuvre. En fait, il est considéré maintenant comme un très grand vin dès sa naissance. Ouais. Quoi. Et ce sont des gens qui viennent là. Il y a la Rectorie à Bagnoules, c'est un vin merveilleux que des gens s'arrachent dans le monde entier.
Ouais. On va en reparler tout à l'heure de ces vins avec Olivier Pouls tout à l'heure.
Ouais.
Je vais vous saluer, mon cher Cali, parce que l'heure tourne.
Ah mince, j'ai parlé trop.
Non, vous êtes super, vous êtes formidable. Je voulais juste signaler que votre dernier album Cavale est sorti il y a quelques mois en mars pendant le confinement, et puis que votre tournée sous réserve des décisions sanitaires va reprendre très très vite avec Cannes, Lille, Terreville et bien d'autres villes encore. Merci Cali, à très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup.
Nos escapades continuent tout de suite en toute sérénité avec Shiva, ménage et repassage à domicile.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, nous explorons les Pyrénées orientales avec Nathalie Elal. Qu'est-ce que vous nous avez trouvé comme histoire à raconter ?
Eh bien déjà, la danse traditionnelle du pays catalan, c'est ceci, en tout cas.
Elle est jolie, la sardane, que l'on danse main dans la main.
C'est la version de Charles Trenet, hein, évidemment. Ouais. La sardane, c'est pas la sardane exactement, mais en tout cas, il en a parlé. Alors la sardane, Cali nous a aussi un petit peu parlé d'elle. Hein. C'est cette danse incroyable. C'est un ensemble de danse, en fait, et de musique traditionnelle catalane, toujours très populaire actuellement. Hein. C'est vraiment l'invitation à la fête. Elle se veut le symbole de la fraternité, de l'harmonie, de l'amitié, mais surtout de la solidarité, ça c'est très important, entre les hommes et les femmes de toutes les couches sociales, parce qu'ils dansent main dans la main, une sorte de ronde universelle. Donc cette sardane, elle a été introduite en Vallespir, donc dans les Pyrénées-Orientales, en 1905, et ça fait partie aussi du patrimoine immatériel de la Catalogne. Mais autant le flamenco a un rythme rapide, autant là nous avons un rythme lent, avec une alternance de pas court et de pas long. Ouais. Et donc ces danseurs
font... Vous nous faire une petite démonstration.
Non, vous sur la console.
Moi je
vous mets au défi, je vous offre une
bouteille.
Vous êtes un excellent danseur, j'en suis sûr.
Après quelques verres de Rivesaltes.
Peut-être Olivier, peut-être Jean-Bernard. Moi, je vous parle de cela. En tout cas, il y a aussi, et ça c'est très important, ça fait partie
de ce folklore. Mais ça se danse encore beaucoup, là, la sardane ?
Ah, c'est de toutes les fêtes locales, c'est très important là-bas. C'est vraiment ancré, c'est dans les mœurs, et c'est vraiment venu de Catalogne. Et vous avez aussi la cobla. Alors la cobla, c'est cette musique qui permet de danser la sardane. C'est un ensemble instrumental. Et la cobla, ça a une origine latine, ça vient du mot copola, qui signifie ensemble ou union, d'où notre ronde universelle dont je vous parlais. Et la cobla, eh bien, se compose de 11 musiciens, 12 instruments. Pour la plupart, ce sont des instruments à vent et donc avec une sonorité très particulière. Et si vous souhaitez entrer dans la danse, ben vous le ferez toujours par la droite en respectant l'alternance homme-femme. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences, la sardane, ça demande de l'endurance.
Bon, pourquoi ?
Eh ben parce que c'est quand même physique tout ça. D'accord. Ben oui, essayez donc de danser, et puis ensuite il faut lever les bras.
Il faut danser pendant des heures.
Oh, peut-être pas, j'irai pas jusque-là, mais enfin il faut quand même s'accrocher, on n'apprend pas comme ça la sardane.
Alors, dans les traditions profondément ancrées dans les Pyrénées-Orientales, il y a un truc moi, que je trouve magnifique, c'est les tours humaines.
Oui, alors ça aussi, c'est vraiment du folklore local. Alors, les castels, hein, les châteaux en français, sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, l'UNESCO, depuis 2006. Et les castels, ce sont donc ces tours qui font entre 6 et 10 étages et qui sont composés d'êtres vivants, d'hommes, de femmes et d'enfants.
C'est
absolument incroyable à voir. C'est une œuvre d'art vivante. Union et cohésion, là encore, font la force. Et la devise des castellers, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes et ces enfants, c'est justement force, équilibre, courage et bon sens. Et on les comprend parce que c'est périlleux, il y a même des accidents assez graves, malheureusement.
Il faut expliquer que c'est des gens qui se grimpent dessus sur les épaules les uns des autres et ainsi de suite. Ça monte très haut.
Ça monte très haut, jusqu'à 6 à 10 étages. Donc c'est quand même incroyable. Il y a eu des records.
Ah, c'est incroyable.
En 2015, il y a eu un record, je crois, avec 10 étages. Enfin, c'est vraiment le record du monde.
Je ne veux pas être en dessous, moi.
Mais moi, j'aimerais pas être au-dessus non plus. Mais ça, c'est plutôt les enfants qui sont au-dessus.
Ouais.
Donc, il y a un vrai cérémonial.
Les enfants à 15 mètres de haut, j'imagine,
oui,
le spectacle.
Et ils sont,
ah, c'est impressionnant.
Ils sont casqués, justement, les enfants à 15 mètres de haut. Parce que si vous imaginez la chute.
Mais oui.
Alors, il y a un cérémonial. Donc, chaque membre, chaque castellaire porte un pantalon blanc, une chemise de couleur, la même couleur pour tout le monde. Mmh. Et bien sûr, ce qu'on appelle la fexa. C'est-à-dire, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est une très longue et large ceinture noire qui sert à la fois à soutenir le dos, mais ça sert aussi de point d'accroche pour celui qui monte. Et chaque Castellaire va être aidé d'un camarade, il va s'enrouler dans cette ceinture emblématique. Donc les petits, les enfants vont grimper au sommet, donc casqués pour plus de sécurité. Et leur souplesse, leur légèreté fait qu'ils vont être évidemment un peu plus habiles, ils vont monter plus facilement au sommet. Et on dit que le castel, donc la tour, est achevée quand l'enfant lève un bras en l'air. Mais il n'est validé que lorsque les participants, eux, sont revenus à terre, parce qu'il n'y a plus de risque de chute à ce moment-là.
Non, mais c'est vraiment un spectacle à voir et c'est un spectacle régulier.
Ah ben pareil, ça fait partie de toutes les fêtes locales. Il y en a à peu près partout, une fois par an, deux fois par an. Oui, c'est quelque chose de très fréquent là-bas.
D'accord.
Dans toute cette belle région.
Merci beaucoup Nathalie. Dans un tout petit instant, les bonnes choses et la bonne cuisine des Pyrénées-Orientales avec Olivier Poul. Ça tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous partons, nous voyageons, nous baguenaudons dans les Pyrénées-Orientales avec Olivier Pouls. C'est toujours bien de se balader avec Olivier Pouls parce qu'il a les bonnes adresses, il sait ce qu'il faut manger. On est en sécurité.
Oui, et puis là, je peux vous dire que dans cette merveilleuse région entre la mer et la montagne, il y a vraiment de quoi se régaler. Il y a plein de choses. Ce n'est pas les produits qui manquent. Alors, beaucoup de produits d'abord de la culture. Hein. Les fruits, les légumes sont à profusion, dont certains bénéficient d'ailleurs d'indications géographique protégée ou d'appellation d'origine protégée, par exemple les pêches ou les abricots du Roussillon, absolument magnifique. La pomme de terre, la Béa, par exemple, qui est une délicieuse petite pomme de terre nouvelle.
La
Béa,
oui. Je la connais pas.
Eh ben, écoutez, dans le Roussillon.
Est-ce qu'elle nous laisse Béa ?
Je pense que oui, parce qu'elle a ce côté un peu sucré. Vous savez, ces pommes de terre de début de saison qui sont. Il faut surtout pas les éplucher. On garde la peau et puis après, on les cuit simplement dans l'eau.
Mais si on les épluche pas, il y a tous les produits chimiques dans la peau.
Alors, il faut les nettoyer éventuellement si elles ne sont pas bio. Si elles sont bio, il faut quand même les nettoyer parce qu'il y a un petit peu de terre. Mais vous savez que dans une pomme de terre, la peau, elle a du goût. Et puis, c'est la peau qui est la plus riche en nutriments aussi. Donc, c'est souvent idiot d'éplucher les pommes de terre. Sauf lorsqu'on a des vieilles pommes de terre qui sont là, avec une peau épaisse. Mais là, quand vous avez des pommes de terre nouvelles, franchement, ne faites pas cette erreur, s'il vous plaît.
Bon, très bien.
Voilà.
Excusez-moi.
On fait ce qu'on peut, Olivier. On fait ce qu'on peut. Je pourrais aussi vous parler de l'oignon rouge de Toulouse. Et pas de Toulouse, l'oignon rouge de Toulouse, ou les cerises de Céret. Et puis après, évidemment, les produits de la mer, dont la célèbre anchois.
La célèbre anchois ?
Ben oui, l'anchois de Collioure, bon sang. Eh oui, elle est connue depuis la nuit des temps. En tout cas.
Attendez, la anchois, vous
on dites ? On dit un anchois. La célèbre anchois. Ou le célèbre anchois, plutôt. Vous avez raison.
J'étais perdu.
Que c'est une sauce.
J'ai eu un doute.
Une sauce à l'anchois.
Le célèbre anchois, parce qu'on dit un anchois. Vous avez raison.
Et on dit une anchoyade.
Voilà.
C'est pour ça.
Alors, on lui doit d'abord ses lettres de noblesse depuis pratiquement le Moyen-Âge. Hein. On avait des techniques de sel qui permettaient de salaison, qui permettaient de les conserver. Ouais. Le port de Collioure était reconnu pour être particulièrement actif en matière de pêche aux anchois. Ouais. Une pêche qui a lieu entre le mois de juin et le mois de juillet. Donc là, c'est plutôt terminé. Mais vous pouvez les trouver, évidemment, sur place, sous trois formes. Alors, au sel, en saumure ou à l'huile d'olive. Mmh. Et elle a une saveur particulière. C'est vrai qu'elle est connue au-delà de sa
c'est
région.
C'est marrant, vous dites elle, hein, pour l'anchois.
Il, c'est vrai, mais j'arrive pas.
Qu'est-ce que tu serais féminin dans l'anchois
quelle est votre relation à l'anchois
Quel est l'anchois qui sommeille en vous, Olivier?
L'anchois, il a une saveur particulière et ce goût unique de cette pêche qu'on maîtrise particulièrement bien dans cette région.
Un bon anchois, c'est vraiment à tomber par terre.
Mais bien sûr. sûr.
Mais souvent, on a une méconnaissance de l'Anjouan. Mais d'écouter des bons Anjouans. Mais c'est vrai, mais je plaisante pas.
Non, mais c'est vrai.
Quand c'est très bon, c'est à tomber par terre.
Un petit morceau de pain que vous avez fait griller, bien croustillant, et vous posez votre anchois par-dessus, tout simplement, c'est une pure merveille. Et puis, ça peut aussi servir à de condiments. Vous rajoutez quelques anchois, par exemple, dans un tartare. C'est absolument magnifique. Ou vous avez en saison des Saint-Jacques crus, vous posez juste un petit bout d'anchois par-dessus, ça vous fait une explosion dans la bouche et ça sert à l'assaisonner en quelque sorte.
Dans une daube d'agneau, c'est génial de mettre deux anchois pilés. Évidemment, il faut les faire dessaler un peu quand même.
Et puis bien sûr, une anchoyade. Parce que là, voilà, une anchoyade pour l'apéro. Alors, avec quelques anchois, un peu d'huile d'olive, des capres, de l'ail, et tout ça bien écrasé dans un mortier. Là, on tartine au moment de l'apéro. On est quand même pas mal.
Très bien. Il y a d'autres plats qui vous font saliver?
Ah oui, moi j'adore la cargolade.
La cargolade.
Ouais, alors ça, ce sont des escargots, mais là-bas, ils les cuisent au feu de bois. Ils les cuisent sur un feu de bois. Et surtout, les coquilles sont remplies avec du lard fondu.
Ah bon,
on met les escargots à cuire, on fait fondre du lard, et avec un petit entonnoir, comme ça, ils vont venir mettre du lard fondu dans la coquille.
Avec l'escargot qui est toujours dans la coquille.
Évidemment, avec l'escargot. Et alors, le mélange entre l'escargot et le lard fondu, c'est une pure merveille. Uh-huh. Et puis, évidemment, difficile de ne pas parler de la fameuse crème catalane. En dessert, vous en prendrez bien une petite, cher ami.
Évidemment.
Un petit peu dans l'esprit d'une crème brûlée, mais aromatisée à la cannelle et au citron. C'est vraiment... Alors, c'est un peu... Ça tient encore. Mais c'est absolument délicieux. Et puis, évidemment, le poulet à la catalane, pourquoi pas, avec cette sauce... tomates, poivrons, oignons, le tout confit tranquillement ensemble, ça donne aussi des saveurs extraordinaires.
Très bien. Côté vin ?
Côté vin, Cali nous en a parlé, il y a évidemment le fameux muscat de Rivesaltes, et puis un autre vin que j'aime beaucoup, le Banyuls, sont deux vins de dessert ou de fin de repas, ou en tout cas des vins avec du sucre résiduel. Le Banyuls, c'est ce qu'on appelle un vin doux naturel, donc c'est-à-dire c'est le type d'un Porto, c'est le même principe, issu de cépages...
Moi, je trouve ça sucré.
Alors, un peu trop sucré, non ?
C'est une question de goût, avec le chocolat ou avec le fromage, certains chocolat. Fromages à pâte persillée, c'est une pure merveille.
Ah bon ?
Ah oui, je peux vous le garantir. Et puis surtout, ce sont des vins qui vieillissent admirablement bien. Les vieux Banyuls, c'est une pure magie.
Ah oui ?
Ah oui, je vous le garantis. Je vous en porterai, tiens.
Oui.
Pour vous faire changer d'avis.
Merci beaucoup, Olivier Pouls.
Et donc, on dit bien un anchois.
Une anchoyade.
C'est curieux, parce qu'on l'a fait plusieurs fois.
Oui,
c'est très étonnant.
C'est la fin de la semaine, de la
c'est
saison.
C'est vraiment à analyser, ça. Jean-Bernard Carrier, on vous retrouve dans quelques instants pour nous raconter où poser sa serviette, sur quelle partie de quelle plage s'étendre.
Les petits coins secrets,
sur quel sentier.
C'est pas la grotte des amoureux, je vous emmène pas dans la grotte des amoureux. Hein. Ça, c'est Cali qui a déjà dévoilé le spot, donc c'est trop tard. Je vous emmènerai ailleurs.
A tout de suite sur Europe. On souffle un petit coup dans Et si on partait sur Europe 1 avec Crystal Murray. Princess, une jeune chanteuse française de soul. Tuesday morning, everyone's asleep, but I'm still grooving. Tuesday morning, can't put my head to sleep, this got me jamming. You know I'll be everything.
Dress for that perfect You only call me when you're lonely. This time I'll be the first one to leave.
Ça, on aime bien ça. Crystal Murray, Princess, sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes à la découverte des Pyrénées-Orientales, encore pendant 10 minutes jusqu'à 17h. Tout à l'heure, le voyage sera encore plus extraordinaire puisque nous irons en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là, accrochez-vous, c'est un des plus beaux voyages, des plus extraordinaires voyages qu'on puisse faire. Là, pour l'heure, nous sommes donc au pied des Pyrénées, à
la frontière espagnole,
à côté Méditerranée. Mm-hmm. Et c'est une région magnifique.
Eh bien écoutez, je vais vous reparler des plages. On a parlé des plages de la mer du Nord il y a quelques jours, qui sont déjà très belles. Bah, celles des Pyrénées-Orientales, franchement, elles valent également le détour et leur pesant d'or. Il y en a une en particulier que je peux considérer comme mon petit coin de paradis. Elle s'appelle la plage du Racou, à Argelès-sur-Mer. Racou, en catalan, ça veut dire le petit coin, le recoin. Donc déjà, c'est plutôt bon signe. Ouais. Et dans cette plage du Racou, j'ai vraiment l'impression d'être au bout du monde. Ah, et pourtant, on est dans une station balnéaire extrêmement connue, Argelès-sur-Mer, mais elle est un peu à l'écart, elle n'est pas très connue. C'est un tuyau que m'ont donné les locaux, hein, donc je suis allé sur cette plage-là.
Maintenant, c'est foutu. Hein.
Non, maintenant, c'est un petit peu foutu, je pense qu'on va m'en vouloir sur place, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller parce que tout y est plus doux, tout y est plus lent, et même en pleine saison, on vit complètement au ralenti. Et il y a une particularité sur cette plage-là, c'est pas simplement une belle plage avec du beau sable, ouais. Une mer à 24 degrés comme c'est le cas actuellement, c'est que les maisonnettes qui sont en retrait de la plage, elles sont ensablées, c'est-à-dire la plage gagne même le petit village de pêcheurs qui s'appelle le Racou. Les rues sont en sable, donc on se balade pieds nus. Donc si vous louez un gîte là, vous serez carrément ce qu'on appelle vraiment les pieds dans le sable.
Mais il y a pas de voiture. Il y a du sable dans les maisons.
Alors pardon, juste à côté, ça va vraiment lécher juste l'entrée de la maison. C'est assez spectaculaire. Et donc on se balade pieds nus. Donc c'est vraiment l'ambiance vacances comme on peut la rêver.
Vous sortez de chez vous, vous êtes les pieds dans le
sable. Vous êtes les pieds, littéralement les pieds dans le sable. Voilà. Et il y a aussi une autre particularité sur cette plage du Racou que j'aime beaucoup, c'est là que les Pyrénées s'arrêtent, enfin tombent dans la mer. C'est vraiment sur ce point-là, au Racou, que les Pyrénées terminent leur course. Au massif des Albères, elles terminent leur course dans la Méditerranée.
Ça doit être chouette.
Donc double effet plaisir sur cette plage du Racou.
Pourquoi vous avez mis 24 degrés sur votre fiche ?
Je l'ai mis parce que c'est la température que l'on m'a transmise ce matin. Voilà, l'eau est à 24 degrés en ce moment où je vous parle.
Vérifiez.
J'ai voulu vérifier quand même.
24 degrés, je pensais ce que c'était.
C'est ça, il fait 24 degrés. L'eau est à 24 degrés actuellement à la plage du Racou.
Bon allez, vous avez d'autres petites pépites ?
Ah, il y a l'Anse de Poly. Ça, je sais que les Catalans adorent. C'est près de Port-Vendre. C'est pas très loin d'Argelès. Je l'aime beaucoup aussi celle-là parce que c'est à la fois une plage, donc un site naturel de toute beauté, et c'est aussi un site historique. Donc il y a une histoire très forte qui s'est passée là, et vous allez comprendre pourquoi aussi ça me touche. C'est un ancien site industriel qui a fait travailler 400 personnes sur la plage. Hein. C'était une ancienne dynamiterie. On y fabriquait des explosifs.
Une dynamiterie.
Oui, c'était l'un des plus gros employeurs du département jusque dans les années 60. C'est une usine qui a fonctionné pendant 110 ans. Ensuite, elle s'est arrêtée parce qu'on est passé à d'autres activités. Et une partie des bâtiments a été sauvegardée, préservée, restaurée et ouverte au public. Donc vous avez à la fois le côté historique et le côté plage à l'Anse des Poly.
Mais vous savez que c'est aussi une région où on trouve d'anciennes mines de fer qui étaient une richesse de la région, hein,
tout
très
à fait.
Importante là-bas.
Tout à fait. Je précise quand même aussi que sur cette plage-là, il n'y a pas de bistrot, pas de commerce. C'est resté sauvage. C'est vraiment les plages comme on peut les rêver. Voilà. C'est aussi un autre avantage.
Donc en fait, c'est industriel les plages.
Il y a des bâtiments industriels qui vous plongent carrément dans cette ambiance des années 50. Vous savez, les bâtiments tout en longueur avec des toits en V. Et en même temps, vous avez trois belles plages sur l'Anse des Poly. Magnifique. D'accord. Et le site est vraiment très bien aménagé. Il est classé. Bien sûr, le site est classé, je précise. Donc, vous n'avez aucun risque d'avoir des vendeurs ambulants, etc. On est vraiment tranquille sur cette plage.
Et si on veut se balader un petit peu à l'intérieur des terres, alors ?
Ah, là, j'ai quelque chose pour vous, Philippe. Le train jaune de Cerdagne. Comment ne pas parler de ce train ? On l'a surnommé le Canari, exactement. Ouais. En présente sa couleur jaune. Alors, évidemment, il va 10 fois moins vite que le TGV, hein, parce qu'il fait 30 km/h de moyenne,
mais
il traverse.
Pas d'aller vite.
Ouais, exactement. Il traverse des paysages absolument sublimes au départ de la ville de Villefranche de Conflans. Mmh. C'est pas très loin de chez Calis. Hein, et il va jusqu'à la Tour de Carole, à la frontière espagnole. Il traverse des paysages absolument sublimes. Ça fait que 62 km de ligne, c'est pas beaucoup. Mais c'est un train à l'ancienne. Les habitants locaux, ils sont très attachés parce que, voilà, toute leur histoire est aussi dépendante de ce train qui a désenclavé la région. On traverse traverse des gorges de la tête, en corniche. Et quand on est vu d'en haut, on croirait vraiment un ruban jaune qui serpente de village en village. C'est vraiment superbe.
Ouais, c'est une chouette balade.
C'est une chouette balade. Et je pense que vous connaissez la gare de Bolkert. Il fait un petit arrêt à Bolkert. C'est la plus haute gare de France, ouais, exploitée par la SNCF à 1580 mètres d'altitude. Donc vous voyez un petit peu le côté à la fois, on change d'époque, on change de siècle avec ce train, et j'adore ça.
Ce qui est marrant,
aussi,
c'est que quand on dit la gare la plus haute de France, on se dit on va être à 3000 mètres, non, 1500 mètres.
C'est déjà pas mal.
C'est pas non plus.
C'est pas le Pérou, quoi.
C'est pas le Pérou, quoi.
Sachant qu'on commençait à, je crois, à 300 mètres d'altitude, donc oui, le train a monté 1200 mètres.
Voilà.
C'est incroyable.
C'est le
incroyable.
Dénivelé.
Le dénivelé
est
vraiment impressionnant. Voilà. Et puis on a cette atmosphère dans ces gares, un peu de train à l'ancienne, c'est génial. Voilà, on s'attend à voir le chef de gare sortir avec son képi. Voilà, enfin bref, c'est toute une ambiance. C'est un voyage dans le temps.
Le bistrot de la gare.
Trop de la gare, voilà, toute une ambiance.
Et alors, dans la vallée de la Tête, il y a des sites naturels hyper intéressants.
Il y en a un très particulier au niveau géologique, c'est les orgues d'Isle-sur-Tête. Ouais. Voilà, c'est un site qui, on se croirait un petit peu dans un parc naturel américain, en miniature évidemment, ou alors en Cappadoce, pour ceux qui sont nés dans le centre de la Turquie, c'est les cheminées de fées, vous voyez, ces espèces de colonnes de calcaire qui ont été façonnées par l'érosion, qui ont été sculptées, ciselées après des millions d'années de pluie.
Avec des gens qui habitent dedans
Non, là c'est pas troglodytique, c'est pas des grottes, c'est vraiment un spectacle naturel, on y va juste pour ça, et de la route on devine absolument rien, donc on marche une quinzaine de minutes, on tombe devant ces espèces de colonnes qui font quand même une quinzaine de mètres de haut, c'est vraiment très spectaculaire, on dirait vraiment des grandes orgues, voilà, je ne peux pas dire autre chose, c'est pour ça qu'on appelle ça les orgues d'Isle-sur-Tête. Et c'est vraiment un site géologique très particulier auquel aussi les gens des Pyrénées-Orientales sont très attachés également. C'est un site qu'ils recommandent. Voilà.
Mm-hmm. Et côté culture ?
On a parlé de Céret, qui est la capitale de la cerise, mais il y a aussi un autre particularité très culturelle à Céret, c'est que c'est un espèce de Montmartre à la montagne. Je vais vous dire pourquoi. C'est la capitale du cubisme. Céret a attiré la fine fleur des artistes dans la première moitié du XXe siècle, dont notamment un certain Picasso, figurez-vous. Ouais. Un certain Picasso qui venait là, parce que ça, la ville lui donnait de l'inspiration. Un certain Braque aussi, c'était de la bande de potes en fait. Ils venaient tous là pour s'inspirer.
Derain,
pour
faire Matisse,
exactement.
Tous
et Matisse,
là.
Max, ouais. Jacob, ils venaient là pour faire la fête, s'inspirer, peindre, sculpter, etc. Et aujourd'hui, il y a un très beau musée d'art moderne dans ce petit bourg complètement perdu dans la montagne. Un excellent musée d'art moderne dans lequel on peut voir des céramiques de Picasso, des céramiques qui représentent des scènes de tauromachie qui font aussi partie de la culture catalane.
Et alors, il y a une réserve sous-marine extraordinaire près de Banyuls dont il faut que vous parliez.
Oui,
vous avez le droit aujourd'hui
alors
de parler
ça,
de plongée.
Voilà, on va se lâcher un peu sur la plongée. Il y a un sentier sous-marin qui a été aménagé dans cette réserve. Et avec palmasque et tuba, on peut faire sur 500 mètres on peut longer la côte en toute sécurité et avoir des tas d'explications avec des bouées qui sont sur place qui vous expliquent un petit peu ce que vous voyez sous l'eau, les posidonies, les galets, les poissons, etc. À faire absolument quand on est du côté de Banyuls Cerbère.
Très bien, merci beaucoup Jean-Bernard Carrier. Dans un petit instant, après le flash de 17h sur Europe 1, nous ferons donc ce voyage immense vers ce pays que certains appellent la dernière frontière. Nous irons sur une des terres les plus reculées de la planète, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Prenez une bonne valise, un kawaii parce que c'est humide, et des vêtements pour le chaud et pour le froid, parce que ça monte aussi haut en altitude, il faut partir bien équipé là-bas. Mais c'est un super voyage. A tout de suite sur Europe 1. Et si on partait deuxième heure, c'est encore l'été, c'est le moment du voyage, le moment de se laisser aller, de tout oublier, de rêver. Décollage maintenant.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Je vous emmène aujourd'hui faire un voyage exceptionnel. Un voyage là où peu de gens vont. Un voyage dans un pays dont certaines zones n'ont été explorées pour la première fois par l'homme blanc qu'il y a 80 ans à peine. C'est un pays qui est grand comme l'Espagne, mais dans lequel des villes ne sont accessibles que par la marche ou par petit avion. Un pays vert, couvert de forêts tropicales humides, au relief extrêmement difficile, montagneux, qui grimpe jusqu'à 4500 mètres d'altitude. Le tout avec plus de 800 langues différentes et plus de 300 ethnies. Ce pays est un incroyable ailleurs. Je vous emmène aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie, c'est pour moi un voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps. en Papouasie, la modernité ne semble pas vraiment avoir prise. Là où je suis allé, en m'enfonçant dans les terres, il y avait des petits villages de huttes accrochés à la montagne. Et au pied des huttes, des jardins partout, partout. Avec le climat tropical, ici, ça pousse vraiment facilement. Et puis des cochons qui se baladent au milieu. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est l'ambiance avec les papous. Je me rappelle de l'arrivée dans un village lors d'un tournage de Faut pas rêver. On arrive tranquillement. Alors un village, c'est des huttes un peu perdues dans la végétation qui sont reliées par des sentiers. Des sentiers sur lesquels on croise des petits groupes. Des petits groupes en train de rigoler. Des bandes souvent très très joyeuses de papous en train de papoter. Et qui se tiennent bras dessus, qui rigolent, qui vous font une blague. Et qui vous accueillent à la fois avec une sorte d'étonnement et une gentillesse très 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 touchante. Je me rappelle même d'une grand-mère qui était dans son jardin. Alors elle était toute courbée, elle devait mesurer en tout 1m50. Elle avait un âge bien avancé. Et elle me voit passer et elle m'adresse un immense sourire. Vous savez, le sourire auquel on ne peut pas résister et qui vous dit « viens me voir ». Alors, je vais la voir. J'y vais tout doux parce que je ne sais pas trop ce qu'elle a envie de me dire. Et je m'approche et elle me dit « mais d'où tu viens ?» Alors, je lui réponds « de France ». Et là, elle est toute gênée. Parce que France, elle ne sait pas trop ce que c'est. Elle n'en a même jamais entendu parler du tout. Donc, je lui explique que c'est un pays, et puis un peu différent, avec des maisons en pierre, des grosses maisons, et un pays qui est de l'autre côté de la terre. Et la surprise, elle me prend dans ses bras, et elle s'effondre en larmes, en me serrant très très fort. Elle pleure. Alors, je suis embêté de voir ça, et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas triste? Et là, elle me répond, mais non, je pleure parce que je suis contente, t'es venue me voir de si loin, c'est incroyable, c'est si gentil. Et franchement, ça, cette rencontre, elle est représentative des papous. C'est très, très touchant. Je me souviendrai très longtemps de cette petite mamie papou dans son jardin et de cette gentillesse des papous qui est extrême, presque enfantine parfois. Et c'est la chose qui m'a le plus étonné dans ce pays. Et j'ai une autre anecdote le long d'une des rares routes de Papouasie. Il y avait quelques personnes qui attendaient un bus. Et on discute un peu et je demande à l'un d'entre eux où il va. Alors il me répond, je vais au village voisin, à une quinzaine de kilomètres. Donc je lui demande s'il va plus loin, au village suivant par exemple, à une cinquantaine de kilomètres. Et là il me répond tout de suite avec un regard un peu atterré, ah non, jamais. Et pourquoi? Je ne les comprends pas, ils parlent une autre langue. Et là, j'ai compris ce que voulait dire l'isolement en Papouasie. Il y a 860 langues différentes. Autrement dit, une langue différente tous les 30 kilomètres. Donc les gens bougent très peu, restent dans leur communauté. Et pour peu qu'ils soient un peu en guerre avec un ou deux villages voisins, ils bougent encore moins. En Papouasie, la Papouasie qui est une île, beaucoup de gens qui vivent dans la montagne n'ont jamais vu la mer. Voilà. La Papouasie, c'est une façon de vivre, de penser, de regarder l'autre tellement différente que c'est un immense voyage. Un voyage au cœur de la nature humaine.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait? Philippe Googler.
Et on va continuer à s'enfoncer dans les terres papoues encore plus profondément dans quelques instants sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait? Philippe Googler.
Et nous sommes partis très très loin cet après-midi, jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un sacré voyage. Jean-Bernard, un petit... faut absolument positionner ce pays sur la planète, sur la carte.
C'est plus loin que la Belgique d'hier.
C'est plus loin que la Belgique d'hier, c'est un sacré saut. Ouais.
J'ai presque ambiance. Envie de dire que c'est aux antipodes, 14 000 km de la France quand même. Ouais. Alors pour localiser, c'est au-dessus de l'Australie et à côté de l'Indonésie. Voilà, ouais. Ça vous donne déjà une idée un petit peu du cadre. Il n'y a pas de vol direct pour aller en Papouasie, ce qui rajoute encore un effet exotique. Il faut passer soit par Manille aux Philippines, soit par Singapour pour accéder à ce pays. Donc, ce n'est pas très facile d'accès non plus, même avec l'aérien, quand on pourra y retourner, évidemment. Vous avez dit que c'est un pays qui est grand comme l'Espagne tout à l'heure en présentant cette émission. Oui, il ne faut pas oublier non plus que c'est un archipel. Ce n'est pas simplement un pays à une île principale, la Papouasie, il y a aussi la Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire les îles, il y a la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande et les îles de Bougainville. Des grandes îles, elles font plusieurs, elles font 200-250 km de long. Donc c'est vraiment un territoire extrêmement varié, avec à la fois une partie très tropicale, avec des plages, un côté très balnéaire même. Également au centre du pays, des hauts plateaux avec des montagnes qui montent jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude. Et puis, une région que j'aime beaucoup, on en parlera tout à l'heure, le bassin du Sépik, qui lui ressemble à une jungle amazonienne.
Sépik qui est un fleuve.
Un fleuve, voilà, le bassin d'accord, du Sépik, ouais. Exactement.
Et un relief extrêmement tourmenté qui a rendu ce pays difficile à explorer.
C'est pour très ça peu aussi, d'infrastructures.
C'est une des raisons pour laquelle c'est resté si sauvage.
Très enclavé.
Très, très enclavé. C'est une des régions les plus reculées de la planète, alors que si on regarde une carte, le point le plus proche de l'Australie, il est à 30 km de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est incroyable. On passe d'un pays type occidental à une des régions les plus reculées du monde en quelques kilomètres. Philippe Gigliotti, vous êtes en ligne avec nous. Vous avez eu un coup de foudre pour ce pays. Vous y passez entre 4 et 6 mois de votre vie chaque année, pour dire si vous adorez. Vous avez créé un business là-bas. Vous allez nous expliquer. Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
On dit souvent que ce pays, c'est la dernière frontière. Pourquoi ?
On dit souvent que c'est la dernière frontière parce que c'est vrai que c'est un des tout derniers pays qui a été exploré par les hommes blancs au siècle dernier. Jusqu'aux années 70-80, on découvrait encore régulièrement de nouveaux territoires là-bas. Et parce que aussi, culturellement, comme vous l'avez très bien décrit juste avant, c'est un des pays qui est le plus éloigné de notre conception du monde à nous.
Ouais, de notre conception du monde. Et comment vous le décririez, vous ?
La Papouasie, bah, c'est un drôle d'univers. Pour moi, c'est un pays où le premier point fort, c'est vrai, c'est la population qui parfois rappelle un peu les Gaulois d'Astérix. C'est des gens... qui rigolent beaucoup, qui ouais. parlent fort, qui s'expriment beaucoup, qui aiment beaucoup la bagarre. Je pense qu'on pourra en reparler un petit peu. C'est un pays où il y a une grande joie de vivre. Et c'est un pays où la vie est encore très traditionnelle, où on vit au rythme d'anciennes coutumes, à un rythme éloigné du nôtre aussi. Ouais. Et puis, c'est un pays fabuleux pour sa nature, parce qu'effectivement, on en a des endroits qui sont complètement vierges encore.
Alors, il faut absolument qu'on parle des Papous, parce qu'on a du mal à imaginer qui sont les Papous vus d'ici. Ça paraît juste très exotique, mais on ne sait pas bien. Et moi, je trouve que quand on découvre ce pays et qu'on va dans les villages, ce qui frappe tout de suite, c'est l'accueil. Il y a un accueil joyeux, rigolo, sympa, et avec une relation au cadeau un peu étonnante. Vous pouvez nous l'expliquer ?
Oui, alors les cadeaux, en fait, ça fait... c'est vrai que pour nous, c'est surprenant, mais les cadeaux, ça fait complètement partie de la culture papoue, de la culture mélanésienne, qui est basée sur le don et le contre-don. C'est-à-dire qu'on crée des relations sociales en offrant des choses et en en recevant. Quand on vous fait un cadeau, on vous déclare une forme d'amitié, on vous dit « j'aimerais être ton ami » et nous, en retour, on donne un cadeau et voilà, on confirme cette amitié. C'est comme ça qu'on tisse des liens sociaux.
Ouais. Et alors, moi, je me rappelle d'un cadeau que j'avais reçu, c'était assez marrant. On arrive dans un village comme ça, donc il y a plein de... Bon, c'est des huttes avec les villages, il faut imaginer une forêt avec des huttes dans la forêt et puis des petits sentiers qui les relient hein, les unes aux autres. Il n'y a pas de route, hein, rien du tout. Et donc, là, je parle de l'intérieur des terres. Hein. Et puis, donc, on arrive et il y a une vieille dame qui est en train de se rouler une cigarette. Et alors, la cigarette, il faut imaginer, elle prend un journal, vous voyez, un grand journal. Elle met un peu de tabac au milieu, puis elle roule la feuille de journal, vous voyez. Et ça lui fait une très longue cigarette.
Ah oui, bah elle en a pour un bout de temps. Oui.
Et alors, elle rigole, elle fait ça en rigolant, elle fume un coup, puis elle me passe la cigarette. Et voilà, ça, c'est un accueil papou. Et c'est formidable.
Vous avez supporté le tabac ?
Non.
Mais c'est quoi le cadeau idéal pour un papou ? Qu'est-ce qu'on doit lui faire comme cadeau idéal ?
Philippe ?
Ah ben moi, je trouve qu'un cadeau idéal pour un papou, c'est un petit miroir, par exemple, tout simplement, parce qu'ils adorent se regarder pour mettre leur parure, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de se voir. C'est aussi une photo de chez nous, une carte postale de la France, par exemple, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est notre pays, donc ils sont toujours très heureux de voir à quoi ça peut ressembler. Une photo d'immeuble, pour un papou, c'est très exotique. Il n'imagine pas que des gens puissent habiter les uns au-dessus des autres.
Fascinant, ça. Ouais.
Et en même temps, pour nous, une photo de hutte, c'est exotique aussi.
Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Tout à fait.
Et alors, ce qui est incroyable aussi dans ce pays, c'est qu'il y a 860 langues différentes. Ça nous paraît incroyable.
C'est absolument incroyable. Et c'est vrai que c'est des langues, il faut insister là-dessus, c'est pas des patois, c'est pas des dialectes. Ce sont des langues qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et qui viennent, eh ben, de, enfin, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, elles ont pu se développer parce que pendant des milliers d'années, les gens se sont isolés, chacun dans sa vallée, dans son village, derrière sa rivière, avec des rapports qui étaient souvent guerriers d'une tribu à l'autre. Mmh. Et du coup, voilà, ces langues ont pu se développer. Chez nous, ça s'est fait sur des grands espaces, et chez les Papous, c'était vraiment d'une vallée à l'autre. Et ça donne au pays une diversité culturelle qui est absolument inégalée, je pense, dans le monde et qui est fascinante à découvrir.
Oui, parce que quand on change de langue, on change aussi de culture. Donc tous les 30-40 kilomètres, il y a une nouvelle culture, en gros.
Exactement. Il y a une base commune, hein, évidemment, mais tous les 30-40 kilomètres, on découvre une nouvelle croyance, une nouvelle parure, une nouvelle façon d'habiter, une nouvelle façon d'initier les jeunes. Enfin, oui, ça donne une variété fantastique.
Mmh. Alors, on va continuer à explorer ce pays avec vous, Philippe Gigliotti, dans un tout petit instant sur Europe 1. A tout de suite.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1 et aujourd'hui, nous sommes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, capitale Port Moresby. Certains disent que c'est la dernière frontière, le plus grand des voyages. Dans ce pays, 80% de la population vit dans des villages reculés, isolés, dans des vallées profondes. Il faut des heures et des heures de marche pour y aller. Et ce sont des endroits qui ont très peu de contact avec le monde extérieur. Et la réputation des Papous, les habitants de la Papouasie, qui a longtemps effrayé les explorateurs, c'était quand même, il faut le dire, d'être cannibale. Et il m'est arrivé à ce sujet une petite anecdote assez amusante. On était en tournage quelque part dans un endroit perdu en Papouasie, au bord d'une des rares routes du pays. On s'arrête pour filmer, je sais plus quoi, un plan de paysage ou quelque chose. Et il y a un petit attroupement de papous qui se forme autour et qui regarde. Alors comme d'habitude, les papous, ils parlent entre eux, ils rigolent, ils commentent. Sauf qu'ils parlent dans leur langue locale. Et je vous rappelle qu'il y a plus de 800 langues différentes dans ce pays. Donc a priori, on ne comprend rien. Donc on fait ce qu'on a à faire. Et puis, bizarrement, tout à coup, tous les papous qui étaient là se taisent. Et ils font silence en se tenant un petit peu tout à coup comme bien sagement. Alors on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et il y a un petit miracle. C'est que dans l'équipe, le traducteur comprend cette langue-là. Vraiment, c'est un coup de bol.
Une chance sur 860.
Une chance sur 860, il comprend. Et il a entendu ce que l'un des papous a dit aux autres avant que tout le monde devienne très sage. Et ce papou avait dit aux autres, « faites attention, tenez-vous bien, parce que vous savez, eux, donc nous les Blancs, eux, ils doivent avoir peur. Ils pensent qu'on va les manger. »
C'est génial.
C'est véridique.
Génial.
Et donc c'est marrant parce que les Patous eux-mêmes savent qu'ils ont cette sinistre réputation de cannibale. C'était assez dingue. Et alors Olivier Poul, je sais que vous êtes un touche-à-tout de la gastronomie.
Oui. Alors,
est-ce que ça vous parle?
Oui, alors celle-là, non, pas tellement. J'ai pas de recette sous la main là tout de suite.
Vous êtes penché?
Alors, mais en réalité, c'est vrai que c'est un sujet. Hein. Ouais. Cette île est empreinte de légendes. Et la réalité, c'est qu'il y a eu du cannibalisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, probablement aujourd'hui plus ou très peu. En tout cas, il y a une quinzaine d'années, il y a un reporter globetrotter australien qui s'appelle Paul Raphaël, qui s'est aventuré très profond dans la forêt à la rencontre justement de tribus réputées un petit peu sulfureuses, et notamment les Korawai. Et il raconte qu'il a assisté là-bas, en tout cas à des discussions, qu'on lui a montré des restes humains.
Ah bon,
qu'il a discuté avec des gens qui prétendaient manger, avoir mangé en tout cas des hommes. Mais il faut savoir qu'il ne les mange pas là tout simplement parce qu'ils trouvent ça bon. Ce n'est pas le barbecue du dimanche. Hein. c'est pour des questions religieuses. Et cet emprunt là aussi de légende, en réalité, il considère que quand quelqu'un meurt dans la tribu et qu'ils ne savent pas exactement de quoi il est mort, notamment de maladie, ils ne sont pas très médecins, donc parfois c'est un peu mystérieux, ils pensent qu'il y a un esprit qui est allé manger l'âme de la personne qui habite son corps. Ouais. Et donc pour se venger en quelque sorte, eh bien, ils vont manger le cadavre. Ça peut être leur copain, leur voisin, quelqu'un de la famille, mais ils ne le considèrent plus comme ça. Ils considèrent qu'ils mangent l'esprit maléfique qui s'est emparé de lui. Alors ils le cuisinent, après ce qu'il raconte, hein, il le cuisine, il le cuise, et puis il le mange en entier.
Et alors, j'ose pas vous poser la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait le goût que ça a?
Ben, d'après ce que disent certains explorateurs qui se sont penchés sur la question, c'est que la viande humaine ressemblerait à un mélange entre de la viande de cochon et de la viande d'autruche, voyez-vous. Ah bon? Alors, personnellement, je vous avoue, je n'ai jamais goûté ni cuisiné, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a eu... on pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de tribus cannibales en Papouasie. Il pourrait y avoir encore quelques sectes. Il y a eu récemment encore des histoires, il y a moins de 10 ans, de pratiques sectaires où on aurait consommé de la chair humaine.
Bon. Philippe Gigliotti, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous êtes un fin connaisseur de la Papouasie. Je vous rappelle que vous y passez 4 à 6 mois par an là-bas. C'en est où cette histoire de cannibalisme? Ça existe encore un peu? Il y a des histoires qui traînent ou c'est vraiment fini?
Je pense que c'est vraiment fini. Les Papous aiment beaucoup en rigoler eux-mêmes, oui, hein, de ouais. leurs ancêtres.
Ils en
cannibales.
Jouent, ils en jouent. Ouais, ils en jouent,
ils
beaucoup,
en jouent hein, beaucoup, ça les fait rire. Il y a des tas de blagues qui racontent que le premier missionnaire ou le premier explorateur qui est passé avait été capturé. Et que les gens ont essayé de le faire cuire pour le manger, et puis qu'ils n'arrivaient pas à avaler la chaussure. Pourquoi.
C'est enfin, plausible voilà, en même temps. Les... Hein.
Peut-être, oui, puisqu'ils ne savaient pas ce qu'était une chaussure. Ça les fait beaucoup rire, ils en plaisantent très souvent. C'est, en fait, il y a finalement assez peu de peuples qui étaient connus, qui étaient cannibales, et comme ça a été dit, c'était rituel. Les derniers cas avérés de populations qui mangeaient vraiment rituellement des gens, c'est des gens chez qui on avait trouvé la maladie de la vache folle il y a une vingtaine d'années.
Les forêts,
jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils continuaient à manger, pour une raison dont je ne me rappelle plus, la cervelle de certaines personnes. Mais aujourd'hui, donc, oui,
attendez,
à part
attendez,
quelques...
Parce que c'est énorme ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a des papous qui ont attrapé la maladie de la vache folle parce qu'ils ont mangé des cerveaux humains.
Oui, alors c'était dans
exactement.
Les années 60.
Exactement, c'est ouais. dans les années, c'est à la fin des années 80 que je crois qu'il y a eu cette histoire-là. C'était une ethnie qui était très isolée et qui avait gardé, malgré les missionnaires et tout ça, cette croyance-là, cette façon de faire-là.
Alors, en fait, c'est la dernière histoire. Cette ethnie s'appelait les Forrest, si je me suis bien renseigné. Et en fait, ils avaient pour tradition de manger le cerveau des morts pour leur rendre hommage. Et c'était les femmes et les enfants qui les mangeaient, et les hommes ne les mangeaient pas. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les femmes et les enfants avaient développé des syndromes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob dans les années 60, et plus tard, ils se sont immunisés. Et c'est comme ça qu'on a découvert en réalité qu'ils avaient consommé du cerveau humain, c'est que cette tribu était immunisée contre la maladie de la vache folle. Elle s'était en quelque sorte auto-immunisée
Olivier,
en mangeant.
Vous me faites peur.
Parce que il est parti. C'est les recettes d'Hannibal.
C'est un expert.
Il est chroniqueur gastronomique. Il se connaît, mais vraiment, il est champion en cannibalisme.
Ben, verrouillez la porte du studio là.
J'ai très peur. Philippe Gigliotti, vous restez avec nous. On continue à explorer la Papouasie avec vous dans un tout petit instant. On va faire une petite pause en écoutant François Henri, Bombay Sapphire.
Europe 1, Philippe Googler.
Et nous sommes toujours dans ce pays incroyable. Si un jour dans votre vie, vous avez une occasion ou une chance d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ne dites jamais non. Alors, ça n'arrive pas forcément dans une vie, mais si ça se présente, je vous assure que c'est un voyage extraordinaire.
Si on est invité par les Papous, par exemple.
Si vous êtes invité par les Papous, ce qui a encore moins de chances de se produire. Philippe Gigliotti, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous passez la moitié de votre vie là-bas en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous avez fondé une agence de voyage qui s'appelle Voyage en Papouasie. Comment ça se passe l'autorité chez les Papous? On parle souvent de chef Papou. Comment ça s'organise?
Alors, sur la côte, il y a souvent des chefferies où le chef se passe de père en fils, un peu comme on connaît nous. Mais dans les montagnes, on parle beaucoup des big man. En fait, un chef en Papouasie, c'est plutôt un leader. C'est quelqu'un qu'on désigne ou qu'on suit parce qu'on trouve qu'il est convaincant, parce qu'il est capable. C'est d'abord un grand orateur, voilà. Quelqu'un qui est capable d'amener les gens derrière lui. Quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de cadeaux aux autres,
ah oui.
qui est capable de se montrer généreux et qui prend des bonnes décisions. Et puis le jour où il est moins bon, où il parle moins bien, où il est moins généreux, ben on passe à quelqu'un d'autre assez naturellement. Voilà, il n'y a pas d'autorité absolue en Papouasie.
Ouais. Alors, nous sommes en ligne également avec quelqu'un que vous connaissez sans doute, Philippe, qui s'appelle Marc Dozier, qui est photographe et réalisateur, spécialiste aussi de la Papouasie. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous suivez, vous, Mudidje Kepenga. Alors, c'est un chef papou de la tribu des Ouli, qui est, lui, très engagé dans la lutte contre la déforestation et pour le respect des peuples autochtones. Alors, lui, c'est un papou qui voyage, il quitte régulièrement la Papouasie pour intervenir tout autour du monde, à l'UNESCO, à la COP21, pour sensibiliser le monde à sa cause. Et vous, vous le suivez, et vous étiez avec lui la première fois qu'il a quitté la Papouasie et qu'il a découvert le monde occidental. Et c'était en France, à Paris. Et racontez-nous quelles étaient ses toutes premières réactions et ce qui l'a surpris quand il a découvert notre monde.
C'est vrai, quand il est arrivé la première fois en France, il a été surpris par beaucoup de choses, bien sûr, les voitures, les buildings qui touchent le ciel, la tour Eiffel, etc. Mais il y a une chose qui l'a particulièrement étonné, j'ai même envie de vous dire deux. La première, c'est qu'il nous trouve très très mal polis.
Ah bon ?
Parce qu'il trouve que nous, les Blancs, on n'a pas peur de se manger la bouche en public. Ça veut dire s'embrasser. pour les Papous, traditionnellement, c'est très très mal vu, c'est très mal poli. On s'embrasse pas en public, c'est un mauvais exemple pour les enfants. Et donc, il trouvait que nous, les Français, on était un petit peu les spécialistes de s'embrasser en public. Et ça, c'était vraiment mal vu. Puis, il y a autre chose qui l'a beaucoup étonné. C'est dans le métro, vous savez, il y a des gens qui font la manche, qui ont évidemment pas d'argent, pas de domicile. Ça l'a beaucoup étonné parce qu'il disait, il a souvent dit de nous, vous les Blancs, vous n'êtes pas très partageurs. Parce que chez moi, en Papouasie, on ne laisserait jamais quelqu'un dormir dehors. On donnerait toujours à manger à quelqu'un. Et donc, c'est, les, je pense, des deux traits importants qu'il a retenu de la tribu des Français.
Comment il a réagi quand vous l'avez emmené à l'Assemblée nationale, par exemple ?
À l'Assemblée nationale, on a été invité par Noël Mamère, à l'occasion d'un film qu'on a tourné pour Canal+, qui s'appelle L'Exploration inversée, qui raconte un peu à la façon des lettres persanes, effectivement, la vision de ce chef papou sur notre monde. Et quand il était à l'Assemblée nationale, une des choses qu'il nous a dites, c'est « Bon, finalement, vos chefs, ils sont un peu comme les nôtres, ils parlent beaucoup. » Beaucoup trop.
Ça, je crois que c'est universel.
Voilà, et c'est exactement ça. Finalement, il y a une certaine universalité. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, en fait, son regard dans un espèce de retournement de point de vue, vraiment comme les lettres persanes, comme vous l'avez dit au début de l'émission, en fait, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est vraiment une façon de voir très différente. Et donc, avoir la chance d'écouter sa vision sur notre monde, c'est une façon aussi de nous interroger sur notre monde, ses travers ou ses réussites.
Je crois qu'il a eu une réaction sur les ors de la République et de l'Assemblée nationale.
Oui, effectivement, quand on était avec Noël Mamère, on a eu l'occasion de visiter l'Assemblée nationale. Et puis tout d'un coup, il s'arrête, il nous regarde et il dit « Ah, j'ai compris ». Alors, il fait un silence. « Mais qu'est-ce que tu as compris ?»« J'ai compris. Chez moi, vos exploitations, il y a des exploitations qui sont gérées par des hommes blancs comme vous. Ils viennent, ils extraient l'or de nos terres. Nous, on se demande ce que vous en faites. Vous les mettez dans des sacs et vous partez au bout du monde. On n'a aucune idée de ce que vous faites de cet or. Mais maintenant, je sais ce que vous en faites. Tout l'or qui vient de mon pays, vous le mettez dans votre Assemblée nationale. Vous, l'or est partout, sur les lustres, sur les poignets. Tout à l'heure, je suis allé au WC, même la lunette des WC est en or. Alors, voilà ce que vous faites. Vous décorez votre building et vous développez votre pays avec notre or.
Et quand vous êtes allé avec lui à New York, il y a eu des réactions aussi étonnantes.
Oui, il y a eu d'autres réactions qui sont encore une fois, qui peuvent paraître simplistes, mais qui en réalité sont vraiment pertinentes et elles nous invitent vraiment à réfléchir sur notre monde, notre vision de nous-mêmes et des autres. Alors, lorsqu'on était aux États-Unis à New York, il a regardé les buildings qui touchent le ciel et tout d'un coup, il s'est dit, mais les Américains aiment habiter en haut du ciel. Ils sont vraiment prétentieux. Quand le monde va s'écrouler, c'est eux qui tomberont du plus haut. Et je crois que ça nous fait réfléchir. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le monde va s'écrouler, quand on n'aura plus de ressources, quand il n'y aura plus de pétrole, les Américains qui vivent dans le luxe, forcément, la chute sera plus dure pour eux que pour les Papous qui vivent toujours de façon autonome et complètement indépendante. Et puis, une autre remarque qui a été très intéressante et je trouve qui fait vraiment écho à l'actualité aujourd'hui, c'est quand on était devant la Maison Blanche. À l'époque, Barack Obama était encore le président des États-Unis. Et Mudidje, tout d'un coup, se met en arrêt et dit « Mais comment s'appelle ce bâtiment ?» Alors j'ai dit « La Maison Blanche ». Il laisse un silence et puis il me dit « Mais si le président des États-Unis est noir, pourquoi sa maison ne s'appelle pas la Maison Noire. En fait, c'est aussi, ça peut paraître simpliste, un peu rigolo, mais au fond, finalement, c'est comme un raccourci extrême de la situation des Noirs américains aujourd'hui aux États-Unis. On voit bien avec le débat, avec les élections. Donc, je pense que c'est, voilà, ce sont des petites pépites, des petites perles. Qui nous offre et qu'il faut écouter, puis ça nous donne matière à réflexion.
Oui, tout à fait. C'est très chouette, c'est très touchant ce que vous racontez. Merci beaucoup, Marc Dozier. Philippe Gigliotti, merci également d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté un petit peu de la Papouasie. On pourrait en parler des heures et des heures.
Merci beaucoup.
Parce que moi, je trouve que c'est une aventure humaine d'abord, la Papouasie. C'est l'aventure, comme on le disait avec Marc Dozier, dans ce qu'on a été, dans ce qu'on pourrait être. C'est une autre façon de voir le monde.
Tout à fait. Oui, c'est un pays, c'est vrai, où on fait des rencontres merveilleuses et où on apprend beaucoup de choses, y compris sur soi-même.
Merci Philippe Gigliotti. Je rappelle que vous avez fondé l'agence Voyage en Papouasie, que vous êtes un spécialiste de la Papouasie et que vous êtes un homme formidable pour parler de ce pays. Dans un tout petit instant, sur Europe 1, la cuisine des Papous, un nouveau challenge pour Olivier Pouls, même si, visiblement, il a l'air de s'y connaître sur certaines spécialités.
Pas celle dont on a parlé il y a un instant. On va essayer de faire mieux.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, nous sommes aujourd'hui dans un des endroits les plus étonnants de la planète, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on va parler de la gastronomie en Papouasie.
Oui, alors on laisse tomber la partie de tout à l'heure, cannibale, ouais. Évidemment. Mais parce qu'il y a un vrai contraste en fait entre ces tribus prétendues cannibales qui... On le rappelle, aujourd'hui, ne le sont plus. La gastronomie, si on peut parler de gastronomie, ou les traditions, en tout cas, gastronomiques de l'île, sont plutôt végétariennes. Ah. On y mange assez peu de viande, en fait. Il n'y a pas de grosse tradition d'élevage. On est loin de l'Australie ou même de certains pays d'Afrique où on mange énormément de viande.
Là, on croise quand même souvent des cochons.
Alors, vous pourrez manger du cochon, vous pourrez manger un petit peu de volaille, mais ce n'est pas quelque chose qui revient à tous les repas. C'est plutôt réservé pour des repas de fête ou des grands moments. Il n'y a pas une consommation quotidienne de viande. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il n'y a pas beaucoup de restaurants non plus. On ne peut pas dire que dans les villes ou les villages,
En fait, c'est plutôt des bars qu'il y a, des bars où on se restaure. Et l'ambiance est souvent très animée, je peux vous le dire.
Il y a des bars et puis...
Dans les quelques ville, parce que dans les villages, il n'y a pas de bar.
Non, il n'y a pas de bar,
il n'y a pas le troquet du coin, non. C'est pas possible.
Non.
Ils ont une manière de manger. D'abord, ils mangent souvent ensemble. On mange là-bas assis à même le sol. On mange avec les doigts. Et surtout, on partage. Et c'est vrai que cette notion de partage est chez eux très, très importante. Il faut toujours que tout le monde ait la même chose. Et en est en quantité égale. Donc, si on en a un peu plus que le voisin, il ne faut pas hésiter. Il faut donner, il faut partager, etc.
Ouais, il faut être attentif, c'est vrai.
Oui, c'est très important. Et ce qu'ils vont manger, alors, c'est il y a un élément qui est fondamental, qui est très central dans leur cuisine, c'est ce qu'on appelle le sagou. Alors le sagou, c'est une fécule qui est extraite du tronc du sagoutier. Et le sagoutier, c'est une espèce de palmier, en fait. C'est très répandu. Et cette farine de sagou sert à faire plein de choses. C'est un liant, mais ça permet aussi de faire des galettes. C'est vraiment quelque chose que vous allez manger sous toute forme là-bas. Alors, on accompagne ça avec des fruits. Il y a beaucoup de fruits exotiques, hein, de la papaye, de la mangue, mais aussi des bananes, des melons, tiens, paraît-il très bons, des ananas. Il faut parler aussi de la patate douce, qui est aussi, ils ont beaucoup de tubercules. Les tubercules sont très importants dans leur alimentation.
Parce que ça remplace le pain, alors, j'imagine. Alors,
c'est quelque chose qui est quand même qui tient au corps. Ouais. Et donc, on va manger cette patate douce et qu'on va souvent associer à la noix de coco. Et la noix de coco, elle aussi, est omniprésente dans la cuisine ou ce qu'on pourrait appeler la gastronomie papou, sous toutes ses formes. Hein. Alors, beaucoup de lait de coco, d'eau de la noix de coco qu'on va rajouter dans des plats. On va faire cuire des légumes, on va faire cuire ce fameux sagou ou de la patate douce. On va rajouter un peu de noix de coco, on va en râper dessus, enfin, on va mettre... Des petits morceaux, on va mélanger toutes ces saveurs, c'est pas si mal. Et puis il y a ce qui est important aussi là-bas, c'est le moumou. Alors le moumou, c'est pas quelque chose qui se mange, c'est une technique une technique de cuisson qui est, on pourrait dire que c'est une espèce de four naturel.
Comme le four tahitien finalement,
voilà.
Ça se retrouve dans toute la partie océanienne.
Exactement, on fait un grand trou, on met des braises, on rajoute des feuilles de bananier par-dessus et ensuite on va y mettre la nourriture qu'on veut faire cuire. Mmh. Alors ça peut être des légumes, ça peut être des légumes racines, ça peut être de la viande hein, dans certaines occasions. Puis après on va refermer en partie ce trou. Et donc, la cuisson va se faire comme dans un four à l'étouffée. Et on va revenir quelques heures après, on va déblayer tout ça, on va récupérer la nourriture qui a cuite à l'intérieur. Ça, c'est vraiment une particularité locale.
Ça a l'air plutôt sain, tout ça.
Alors, c'est très sain comme cuisine. Là, il n'y a pas de produits transformés. C'est vraiment de la nature à l'assiette. Vous pouvez y aller. Hein.
Pas de cholestérol non plus. Hein.
Je ne suis pas sûr que vous prendrez beaucoup de kilos là-bas. Vous pouvez même en perdre potentiellement.
En revanche, je vous trouve très sage. Moi, je m'attendais à manger des trucs un peu bizarres.
Bah, évidemment que si vous vous embarquez dans la jungle et que vous frappez à la porte de quelques tribus, vous pourrez manger des choses un peu plus spéciales, des larves de papillons qui se mangent aussi beaucoup là-bas. C'est très, très, très
bon. C'est bon, ça ?
Alors, moi, j'en ai mangé une fois, pas là-bas.
C'est nourrissant.
C'est très nourrissant. On ne peut pas dire que ce soit mauvais. Ça n'a pas beaucoup de goût. C'est souvent les insectes, d'ailleurs, vous pouvez manger là-bas de la sauterelle aussi. Grillé, ça n'a pas tellement de goût. Alors, ils mangent des choses, là, je serais un petit peu plus méfiant, du lézard ou de la chauve-souris. Là, je ne suis pas trop client.
Ah oui, surtout c'est la côtoyer un pangolin.
Voilà, exactement. Ouais. Ou éventuellement du serpent. Alors, du serpent, je l'ai mangé une fois. C'est ressemble un peu à du poisson. Bon, c'est pas très excitant. J'ai pas trouvé ça très bon.
Ouais. Moi, j'ai goûté une fois, mais ça n'a rien à voir. Je vous le raconte quand même. La bile de serpent.
Ouais. Eh ben, écoutez, au Vietnam
Non, c'était à Hong Kong. Ouais. Et je vous assure que ça vous donne un coup de fouet.
Ah, à ce point-là.
Absolument dantesque. Et je me suis demandé même si c'était pas stupéfiant. C'était
vraiment incroyable. À quel niveau
forme vous l'avez goûté?
Vous êtes très, très en forme et très joyeux.
Passez-nous un petit shot.
Ça se boit ou ça se mange?
Ça se boit.
Bon,
pas terrible.
Prochaine dégustation, un pot à la bile de serpent.
Il y a un petit troquet à Hong Kong qui sert ça et ça a beaucoup de succès.
Je vous donne l'adresse d'ailleurs.
Revenons à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mon cher.
Oui,
Olivier.
Voilà. Bon, après quelques animaux un peu exotiques et puis pour arroser tout ça côté boisson, elle est pas la peine de demander la carte des vins parce que autant vous dire que on risque pas de vous la porter tout de suite. Un peu de bière à la limite.
Oui, la bière marche bien là-bas. Hein.
La bière marche assez bien.
En quantité d'habitude. Hein.
Les jus de fruits et puis sinon il faut goûter là-bas le cava, qui est une boisson particulière. C'est une infusion en fait. Les feuilles de cava sont des feuilles d'une plante locale qui ont un goût de poivre et qui sont infusées dans l'eau. Et ça a un certain nombre de vertus. C'est d'ailleurs pas mal utilisé en médecine, y compris par chez nous. Hein. On peut trouver des extraits de feuilles de cava. Il paraît que c'est très bon, c'est très relaxant. Alors c'est l'inverse de votre bile de serpent. C'est plutôt pour lutter
pour
contre l'anxiété, le surmenage. Vous vous détendez avec une bonne boisson au cava.
Merci Olivier. Dans un tout petit instant, tous les bons conseils de Jean-Bernard Carrier pour découvrir, et ce n'est pas facile, hein, il faut être bien bien conseillé, pour découvrir la Papouasie-Nouvelle-Guinée. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, et si on partait, Philippe Googler.
Nous sommes toujours en Papouasie-Nouvelle-Guinée et on n'y est pas tous les jours, j'aime autant vous dire. Jusqu'à 18h sur Europe 1, dans Et si on partait. Jean-Bernard Carrier, alors, comment on fait pour découvrir ce pays incroyable?
Alors, je ne vais pas vous dire comment on fait, je vais plutôt vous dire où est-ce qu'on va pour commencer. Alors, je vais vous dire, moi j'y suis allé, le dernier voyage que j'ai fait en Papouasie, dernier voyage en date, c'était en septembre 2019, donc ce n'est pas si vieux que ça. J'ai encore mes souvenirs très forts dans ma tête.
Mais oui,
c'est un choc. Voilà. Il y a avant, après. Franchement, je vous le dis, et pourtant j'ai beaucoup voyagé comme vous, Philippe, et franchement, c'est un pays qui vous change de l'intérieur.
Vous le mettriez dans la position des pays les plus incroyables du monde?
Alors, je dirais en numéro 1, le plus exotique au monde, pour moi, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 2, je mettrais les îles Solomon, et en 3, je mettrais l'Éthiopie. Voilà mon tiercé de l'exotisme et du dépaysement absolu. Donc vraiment, pour moi, c'est le... Il n'y a pas d'équivalent au monde. Alors moi, j'ai commencé mon dernier séjour sur place. J'ai commencé par le bassin du Sépik, qui me fascine énormément. Je vous dis, c'est l'Amazonie de la Papouasie. Mmh. Je vous décris l'arrivée. On a pris un petit avion, un Piper de 6 places. une heure d'avion, on survole toute cette jungle et on atterrit au milieu d'une piste d'herbe au milieu de la jungle. En gros, vue d'avion, vue de ce petit coucou, c'est un ruban vert clair au milieu du vert foncé de la jungle et tout autour, vous avez la couleur un peu ocre marron de la rivière Karawari qui fait des méandres. Voilà. Donc là, vous êtes complètement isolé, vous êtes coupé du monde, pas de route, pas de véhicule, pas d'électricité, pas d'eau courante, pas d'infrastructure, même pas de téléphone, il y a rien. Il y avait un seul hébergement, c'est un petit lodge, plutôt,
ah bah c'est déjà pas mal.
Qui était, ouais, heureusement qu'il y avait ça, en surplomb de la rivière, accessible en pirogue uniquement.
Ouais. Mais c'est dingue que vous ayez trouvé un lodge.
Ça ressemble à quoi le lodge?
Tout à fait, il y a des lits, il y a des moustiquaires, tout est en matériaux traditionnels. Vous n'avez juste pas d'électricité, il y a un petit groupe électrogène qui fonctionne, avec un petit peu d'électricité solaire pendant la journée. Vous n'avez pas de wifi évidemment. Et vous êtes, vous êtes au-dessus de la rivière, vous avez une vue absolument fantastique. Et tous ces bungalows sont construits en matériaux traditionnels. Il n'y a pas du tout de plastique, d'acier, de béton, etc.
Pas de frigo bar.
Il y a pas, voilà. Ça va être un peu embêtant, effectivement.
Et il faut préciser qu'il y a très peu d'hôtels à l'intérieur des terres en Papouasie.
Il y a extrêmement dans ces pics comme hébergement accueillant un petit peu de touristes, c'est le seul. Ça s'appelle le Karawari Lodge.
D'accord. S'il n'y a pas de place, hein, vous êtes mal. Hein.
Il y a tellement peu de touristes que vous êtes à peu près sûr d'avoir de la place. Il y a une dizaine de bungalows.
Mais on n'est pas si mal que ça parce qu'il y aura toujours un papou pour vous héberger.
Tout à fait.
C'est vrai.
Tout à fait.
On n'est pas à la rue. Alors, quelle activité on peut faire là-bas?
Le long de ce fleuve, le Karawari, qui est un affluent du Sepik, il y a pas mal d'excursions en bateau, justement. Et ce que j'ai adoré, c'est à l'aube, l'ambiance. Il y a tous les oiseaux qui... Alors, vous êtes avec votre guide sur cette pirogue, sur votre pirogue à moteur. Les oiseaux qui se mettent un petit peu à piailler. On sent la nature qui est en train de se réveiller. La brume au-dessus de l'eau, au-dessus du fleuve, une ambiance quasi mystique. Et vous avez le gros disque rose-orangé du soleil qui se lève derrière les arbres. Ça, c'est l'aube sur le Karawari, avec en ombre chinoise les pêcheurs locaux qui jettent leurs filets depuis leur pirogue en bois. Ça, c'est une image, mais ça vous reste jusqu'à la fin de vos jours. Magique.
Alors, on va évidemment sur le Sepik pour rencontrer des crocodiles, mais aussi les populations.
Oui, alors justement, les excursions le long de ce fleuve, on s'arrête dans des villages, c'est aussi ce qui fait l'intérêt du fleuve. On découvre la vie, le fameux, notamment ces villages dans lesquels on cultive le sagoutier. Vous en avez parlé tout à l'heure, Olivier. Moi, j'en ai mangé des crêpes de sagoutier. Alors, ça n'a pas énormément de goût, mais on voit vraiment que le sagoutier est utilisé à toutes les sauces, si je puis dire. Le sagoutier, donc, une variété de palmiers. Et puis, on visite aussi la maison des esprits, c'est le centre spirituel et religieux au centre de chaque village. C'est décoré de plein de masques et de sculptures parce que les papous ont vraiment un talent artistique extrêmement fort, notamment dans la sculpture. Et puis, j'ai vu dans certains de ces villages des hommes crocodiles. Je vais vous dire ce que c'est. En fait, c'est assez incroyable. Ce sont des grosses boursouflures qu'ils ont dans le dos et sur les épaules parce qu'en fait, on les scarifie, c'est-à-dire pour passer de l'âge d'adolescent à l'âge adulte, pour qu'ils soient vraiment des hommes, on leur entaille le dos et avec la cicatrisation, ça fait une espèce de texture écailleuse qui ressemble à la peau d'un crocodile. Le crocodile étant l'animal totémique, l'animal emblématique du Sepik. Mmh. Et là seulement, ils deviennent des hommes. Et c'est incroyable à voir. C'est cette espèce de... On a vraiment l'impression qu'ils ont une carapace sur le dos.
Ouais. Mais c'est une souffrance épouvantable.
Oui, c'est une souffrance. Je pense que je ne vais pas faire ce rite d'initiation pour passer à l'âge adulte chez les papous. Ce n'est pas possible.
Vous avez assisté à des fêtes ou des festivals dans les terres?
Je pense honnêtement que les grands festivals des tribus locales sont le motif principal d'un voyage en Papouasie. Il y a vraiment, c'est un petit peu comme les pow-wow, si vous voulez, en Amérique du Nord avec les Indiens. Donc chaque année, il y a des grands festivals de danse et de chants rituels qui réunissent des centaines de tribus qui viennent de tout le pays. En fait, ce sont comme des battles, si vous voulez, de danse et de chant. Ils s'affrontent sous forme ritualisée et sont tous en tenue traditionnelle. C'est incroyablement coloré. On a parlé tout à l'heure du chef papou qui était de la tribu des Houlis. J'ai vu ces Houlis, je les ai vus se préparer avant d'entrer en scène. Ils mettent à peu près une heure pour se peindre le visage, ces fameuses peintures faciales en jaune, en rouge. Ils ont des perruques. Tous les pigments sont naturels, évidemment. Et puis, ils ont aussi beaucoup des ornements corporels faits avec que des matériaux locaux, des coquillages, des graines, des fleurs, des plumes, des cheveux,
beaucoup
des écorces.
De plumes. Ils utilisent beaucoup de plumes. C'est magnifique.
En fait, ce sont des artistes plasticiens, les Houlis. C'est ça. Et quand ils dansent, alors évidemment, ils ont tous ce costume avec eux. C'est absolument incroyable. L'autre tribu que j'ai trouvé remarquable, c'est les Azaro Mudmen, les hommes boue. Alors eux, on les reconnaît aussi facilement quand ils dansent parce qu'ils ont des effrayants masques de glaise qui font ils font une bonne dizaine de kilos, ces masques, et tout leur corps est enduit d'une argile blanche et leurs doigts sont prolongés par des morceaux de bambou effilés, un petit peu à la Freddy. Je ne sais pas si vous voyez le style. Ouais. Et lorsqu'ils font une danse, il y a un côté très rituel, très saccadé. C'était utiliser ces danses jadis pour intimider les ennemis. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler.
Ce sont des guerriers dans l'âme.
C'est pas du tout des reconstitutions, c'est pas du folklore. Ouais. Ils sont là pour exprimer leur identité. On l'a dit, ils sont tous différents. Les tribus sont tous différentes les uns des autres. Ils se regroupent pour montrer leur identité et affirmer leur singularité. dans les stades. Magique. Ça vaut le déplacement à soi seul.
Ouais, c'est le voyage d'une vie. Hein, tout
c'est le voyage d'une
c'est
vie.
Le voyage d'une vie.
Je pourrais vous en parler encore au moins une heure, là, Philippe, de la Papouasie. Hein.
Merci beaucoup, mon cher Jean-Bernard, de nous avoir évoqué comme ça la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un voyage fabuleux. Demain, nous irons dans un pays également passionnant, la Malaisie. Alors plus organisé, mais avec beaucoup de contraste également, des villes high-tech et puis des forêts profondes avec des ethnies très étonnantes également. Demain donc, ce sera notre dernière de Et si bon partait, dernière de l'été, entre 16h et 18h. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se dit à demain.
Et avant demain, Philippe, on vous retrouve ce soir sur France 5 pour votre émission Des trains pas comme les autres et départ pour le Danemark à 20h50, Philippe.
Absolument, le Danemark est un des pays où on serait le plus heureux au monde. En tout cas, il est dans le sommet des classements, c'est assez extraordinaire. Et on verra d'ailleurs comment on élève les enfants là-bas. J'ai vu un groupe d'enfants qui on les laissait jouer avec des scies, des couteaux, des haches, ah oui. Justement pour leur donner le sens de la responsabilité. C'est très intéressant.
On regardera ça ce soir, François.
On leur donnera peut-être aux supporters du PSG pour essayer de les responsabiliser dimanche soir. Non. Je plaisante. Je ne sais pas si nos auditeurs se rendent compte quand même. Une heure en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur Europe 1.
C'est
quand
même exceptionnel.
C'est quand même exceptionnel.
C'est très, très
Est-ce qu'il y a juste un pays où vous n'êtes jamais allé, Philippe ?
Oh, il y en a plein. Il y en a énormément. Mais vous savez, le monde est immense. Et puis les rencontres sont infinies.
Bon, ben on a envie de revivre des voyages avec vous.
Et rappelons-le, des trains pas comme les autres en partenariat avec Europe 1. C'est ce soir et tout l'été à 20h50 sur France 5. À suivre votre grand journal du soir sur Europe 1. C'était Et si on partait avec Shiva. Le voyage reprend demain à 16h, mais d'ici là, profitez de l'été avec Shiva, le spécialiste du ménage et du repassage à domicile. Shiva, on a tous besoin d'attention. Europe 1.